Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue depuis le Forum du Vin pour une émission spéciale. Je suis avec Eric, bonjour Eric.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Et avec nos deux invités, les représentants des Sarmentels tout d'abord. Bonjour.
Patricia Rousson.
Patricia Rousson.
Je suis vice-présidente de l'association et je suis accessoirement élue à la ville de Mende.
Je ne sais pas si c'est accessoire, hein, mais je pense que ça occupe un peu quand même. Et Guy Saleil.
Bonjour, bonjour tout le monde. Ben oui, maintenant, alors j'ai repris la présidence de l'association et comme je me sens faible, eh ben, j'ai choisi deux vice-présidents. Et pour respecter la parité, un homme, une femme. Voilà.
Alors cette dixième édition, qu'est-ce que, enfin, c'est un beau parcours déjà.
Dixième édition, voilà, un très beau parcours, une édition un petit peu gourmande également, mais on va pouvoir en parler de tout ça. Dixième édition pour la présentation du vin de la région Occitanie, une région qui s'est élargie, mais également huitième édition pour le concours. On va y revenir peut-être.
Oui, alors région qui s'est élargie, ça veut dire qu'on découvre plus de régions, de vins différents.
Alors c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant parce qu'avant on travaillait sur des grenaches, des syrahs, on travaillait sur des carignans, des choses comme ça. Et puis cette fois-ci, comme la région s'est ouverte un petit peu plus, on a parmi nos invités quelques représentants du digne terroir de Cahors. Ça veut dire qu'on approche maintenant avec le Malbec, etc. Et voilà, nos palais s'ouvrent à de nouvelles saveurs.
Donc là, cette année, il y a combien de producteurs ?
Voilà, alors cette année, on a voulu limiter pour que tout le monde y trouve son compte. On a 28 producteurs viticulteurs. Ce ne sont que des producteurs, je veux dire, ce n'est pas des boutiques de revente. Et après, on a deux Lozériens qui viennent compléter. On s'était engagé à les prendre. Donc, on a la brasserie La Naine. C'est une jeune brasserie installée sur Saint-Chély-d'Apché. Et puis également, notre ami Xavier Sérémé, voilà, de la pisciculture de Florac, qui nous fait découvrir ces petits filets de truites et tout. Encore un gourmand.
Là, il n'y a que des producteurs de la région ou c'est un peu plus...
Ah oui, ça, c'est le laisser-passer. C'est le sésame, d'ailleurs. Hein. On ne prend que des gens de la région Occitanie. C'est sûr.
D'accord. Et j'en profite pour saluer le soutien à la fois, j'allais dire, moral et financier de la région Occitanie, en la personne d'Aurélie Mayols. Elle est elle-même originaire d'un très joli coin du côté de Banyuls, de la Côte Vermeille, où on y fait de belles choses en matière de vin. Elle nous a donné l'occasion de découvrir de très bons crus, de collioures et puis des passionnés aussi autour du vin. Et donc cette passion-là, eh bien, elle la met aujourd'hui au service bien sûr de la région. Elle nous soutient financièrement pour l'organisation de ce salon du vin. Et je le rappelle bien sûr la ville de Mende qui est à l'origine de ce beau projet en la personne d'Alain Bertrand. Et effectivement, comme l'a rappelé Guy tout à l'heure, c'est la dixième édition de ce salon autour duquel s'agglomère une belle équipe de bénévoles. Et c'est important de souligner que nos collègues bénévoles font beaucoup pour l'organisation de ce salon, et pas que, tout au long de l'année. Aussi, Guy vous rappellera, mais on se retrouve régulièrement pour progresser aussi en matière de connaissances autour du vin.
Voilà, oui, on est globalement entre 45 et 50 bénévoles. On se retrouve tous les premiers vendredis de chaque mois. Et le but, c'est de découvrir des petites perles dans la région. Mais comme je le dis chaque fois à tous mes collègues, même qu'un vin ne vous paraisse pas excellent, ayez le respect quand même de celui qui l'a fabriqué, parce qu'il l'a fait avec beaucoup de courage et de conviction. Et on n'est pas toujours dans la bouteille. Ça peut être un défaut de bouchon, ça peut être un défaut à un autre niveau. Mais au moins, il a le mérite de produire quelque chose et surtout de le présenter au jugement de tous. Et c'est ça qu'il y a de bien. Après, je crois que les vins, ils ont besoin d'un environnement pour être dégustés. Alors quelquefois, effectivement, dans la précipitation, on va vite dans la cave, on récupère le flacon et on tire le bouchon pour le servir immédiatement. Donc voilà, c'est peut-être là une grosse erreur qu'il ne faut pas toujours commettre. Mais la situation fait qu'on ne peut pas toujours prévoir, anticiper.
Alors ces ateliers, c'est ouvert à tous ? Comment ça se passe tout au long de l'année ?
Oui, mais alors bien sûr, il y a un petit passeport. Hein. Il faut s'acquitter d'un droit. Alors, on a une cotisation, comme toutes les associations. Et cette cotisation, elle est due au mois de septembre ou octobre. Et après, effectivement, ça vous permet de venir à ces ateliers quand bon vous chante. Ces ateliers-là, donc, c'est de la dégustation de vin, mais c'est présenté sous une forme d'auberge espagnole. quelques-uns parmi nous amènent de leur fabrication. On a toujours plaisir à présenter une pâtisserie qu'on sait faire, etc. Et l'association complète légèrement en allant dans le sens du vin que l'on va proposer. C'est-à-dire, c'est quand même pas non plus un buffet tout azimut. Il faut aussi que ça ait une orientation pour permettre au vin d'être mis en valeur. Voilà.
Il faut qu'il y ait des accords.
Oui, on essaie parce que c'est pas toujours évident, quoi. Voilà. Mais après, avec également les bénévoles de l'association, grâce à cette adhésion-là, pourront participer également à des sorties œnotouristiques. On essaie d'organiser une fois par an un départ sur un terroir de la région Occitanie. On part, on est entre 20 et 25, et sur 3 jours, ça fait 2 nuits en extérieur. Et là, j'organise un circuit dans des domaines où on n'a pas toujours la possibilité de rentrer. Alors bon, j'ai quand même un carnet d'adresses qui me permet justement de me faire ouvrir quelques portes. Et ça permet de se retrouver vraiment entre amis. Et là, alors on est au plus vrai de la cave, puisqu'on va rentrer carrément dans les chais. Et on va même rencontrer la personne qui va faire les assemblages, etc. Voilà.
Donc ça, c'est encore possible, même maintenant, de rejoindre l'association pour l'année qui vient.
C'est tout à fait possible. Par contre, il y a un engagement à cela. Il faut que la personne qui vient nous rejoindre, elle s'engage à nous aider pour l'organisation du Salon du Vin. Ce qui est normal parce que, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est toute une mise en place. Donc il y a des brigades pour les services resto, il y a des personnes qui sont des porteurs, etc., etc. Chacun à sa place. Ça veut dire qu'on est gourmand à main d'œuvre.
Et il y a l'organisation du concours qui est portée par Guy. Et j'allais dire, heureusement que l'association a Guy et les connaissances qui vont avec. Parce que c'est vrai qu'il a œuvré aussi pour la reconnaissance de ce concours. Pour une reconnaissance internationale. Et je sais qu'il est mieux placé que moi pour parler du travail qu'il a mené. Mais c'est une des opérations phares de ce salon, l'organisation du concours. Ce qui permet quand même aux producteurs d'être reconnus dans leur travail, d'être présentés aussi à l'ensemble des personnes qui fréquentent le salon. Et comme tu l'as rappelé, Guy, tout à l'heure, c'est tout le respect que l'on doit au travail qu'ils donnent. Et c'est extrêmement intéressant de les entendre parler de leur travail. Et bien sûr, d'aller à leur rencontre à l'occasion de ces sorties œnotouristiques. Parfois, d'ailleurs, on leur donne envie de venir participer à ce salon. Et ça, c'est formidable parce que à la fois, ils peuvent venir au salon et on va les voir après. Ou inversement, on a été les voir chez eux. Et ils nous font l'honneur de venir à notre salon. Donc c'est une belle reconnaissance aussi du travail que l'on essaie de mener tout au long de l'année pour faire la promotion des vins de la région.
Alors juste, je voulais préciser pour le concours, effectivement, cette année, nous avons réussi à nous faire reconnaître officiellement. Donc notre concours est inscrit sur la liste officielle des concours vitivinicoles de France. Partout où on tape ces mots-clés en tant que producteur ou professionnel dans le domaine du vin, Mende sera affiché d'office. Ce qui veut dire que le producteur qui a une médaille ici, il présentera son vin à un concours des vins de Mâcon, par exemple. Il aura le droit de laisser cette médaille-là sur son flacon parce que c'est une médaille officielle. Ce n'est pas une médaille de folklore. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant aussi.
En parlant des vignerons qui exposent ici, c'est l'association qui les choisit. C'est les vignerons qui vous appellent pour savoir s'il y a de la place pour eux. Comment ça se passe exactement?
Voilà. C'est un mix un petit peu des deux. On a des fidèles qui reviennent d'année en année. Hein. Bon, c'est très bien, on est ravis. Et puis d'autres, on essaye aussi d'ouvrir sur d'autres petites lentilles de production. Bon, cette année, on avait fait la part belle, notamment aux Basses-Vallées du Rhône, un peu les Costières, etc. Parce que voilà, on essaye de déplacer, mais on aime avoir quand même un échantillon de producteurs de toute la région. Depuis les grès de Montpellier jusqu'à Vagnoul, Collioure, en passant par le Saint-Chinian, les Faugères. Il faut que tout le monde participe, c'est ça qui est intéressant aussi. Et ça nous permet à nous de continuer à garder un palais assez affiné, assez pointu, pour pouvoir apprécier ces vins.
C'est une bonne occasion aussi de faire la promotion du vin lozérien, parce que même si la Lozère n'est pas de manière naturelle un terroir de vin, elle compte quand même deux vignerons qui sont engagés, et notamment le domaine des Cabridelles qui nous fait l'honneur d'être là chaque année. Je discutais tout à l'heure avec Bertrand, on a vu Elisabeth hier. Il nous disait que cette année, la récolte allait être exceptionnelle sur, entre autres, des parcelles de Marcelam avec un degré qui va être fabuleux grâce aux journées ensoleillées que l'on a eues dernièrement. Et ça aussi, quand on sait dans quelles conditions ils travaillent leurs vignes, c'est formidable de pouvoir parler de leur travail.
Alors, puisqu'on parle des viticulteurs, je voudrais juste saluer le domaine de Mayol. C'est un domaine qui est dans l'Aude, là-bas. Ils ont été inondés très sérieusement. Et encore, il y a 2 jours en arrière, ils ne savaient pas s'ils pourraient venir parce qu'ils ne pouvaient même pas sortir de chez eux. Ils étaient emprisonnés là-bas, avec plus d'un mètre d'eau, pas de route, rien. Et aujourd'hui, ils sont là. Donc, je les remercie. Je remercie également Rodolphe Gobet, Château l'Amiral, à Aiguevive. C'est 11 800, je crois, le code postal. On est allé chez eux. Ben, lui, il a encore de l'eau chez lui. Il est tout inondé. La cave est vraiment inondée. Donc, son épouse, qui est œnologue, avec qui j'ai grand plaisir à échanger, ben, est en train de passer balai serpillière et travailler le seau.
Effectivement, les terroirs régionaux ont été impactés par ces... par ces crues de ces dernières semaines. Alors, peut-être un rapide retour sur ce qui s'est passé hier et puis surtout ce qui va se passer aujourd'hui, puisqu'on a encore le temps jusqu'à 17h pour venir faire plein de choses ici.
Et découvrir les ateliers, parce qu'on voilà. Présente du vin, mais on présente également des ateliers gourmands.
Donc il y en a un qui est en cours, un atelier sur l'accord avec mets et vins, et puis il y a aussi du chocolat, si j'ai bien...
Alors voilà les gourmands qui s'affichent. On a réussi une opportunité incroyable d'avoir un maître chocolatier qui nous vient de Hendaye. Et en direct, hier, il nous a travaillé donc, de la ganache avec une réduction de vin. Et aujourd'hui, il nous fait en direct un royal praliné chocolat qu'il va faire déguster. Et cet après-midi, il nous fait également toute une série de moulages chocolat, mais des moulages chocolat parfumé. Après, pour compléter, on restera toujours chez les gourmands, on a l'hôtel du Pont-Roux, Madame Gerbaille, qui nous rejoint pour nous faire un atelier sur les choux. Alors, il y aura de la dégustation de choux salés, choux sucrés. Vous voyez, on va soigner les gourmands.
Je rappelle également qu'il y a une tombola en cours, puisque l'association, puisqu'elle ne fait pas payer de droit d'entrée sur le salon, eh bien, elle essaie comme elle peut de récupérer quelques menus monnaie, on va dire. Encore une fois, on remercie les producteurs qui ont joué le jeu à nous remettre les lots. Et je voulais rappeler que cet après-midi, on mettrait en jeu la réalisation du trophée par le maître chocolatier. Donc c'est voilà, important aussi de se dire que ben, quand on vient au salon, on peut gagner et repartir avec quelque chose.
Mais Patricia, derrière le trophée, il n'y avait pas écrit mon nom.
Tu l'as pré-réservé. Ah, alors je t'invite à racheter une nouvelle fois quelques tickets supplémentaires de ton
quand on voit la plaque de chocolat euros. Qu'il a mis en vitrine, si c'est ça le lot, moi je suis preneur.
Hein. Alors bien sûr, on ne l'a pas dit, c'est à l'espace événement Georges Frêche pour, sur l'ensemble du rez-de-chaussée qu'on retrouve les producteurs, qu'on retrouve ses ateliers aussi, ça se passe tout sur le rez-de-chaussée.
Voilà, alors hier on avait investi le premier étage également, puisque deux associations amis étaient là. On avait 3-2 en danse et l'association y a cadencé toute la journée. Ils ont fait des ateliers danse, formation, etc. Et puis hier soir, bien sûr, on avait le repas avec l'animation musicale. Mais par contre, aujourd'hui, tout se passera sur ce niveau, sur le rez-de-chaussée même. On va profiter du soleil, du beau temps.
Alors, dans quelques instants, on retrouvera les producteurs qui vont venir exprimer un peu leur travail et nous présenter un peu quelques vins. C'est toujours compliqué de le faire à l'antenne, mais on rappelle que c'est avec modération toujours. Mais bon, ça c'est pour nos amis du CSA qui nous écoutent. Maintenant, on sait qu'ils nous écoutent, donc on le dit. Mais peut-être justement ce concours dont on va parler, puisque les vins dont on va parler tout à l'heure ont été retenus dans ce concours. Enfin, en tous les cas, les producteurs ont présenté des vins qui ont été retenus dans ce concours. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous nous avez dit que c'est un concours qui est reconnu, mais alors c'est des œnologues qui viennent ou voilà. c'est vous comment ça se passe?
Donc un concours comme ça, c'est un concours qui a des normes très strictes. Ces normes-là, elles sont incontournables. Donc il y a une proportion de professionnels du milieu du vin, professionnels au niveau des œnologues. Donc ça représente à peu près un tiers, œnologue ou sommelier. Ensuite, des professionnels de la distribution ou de la présentation de ces vins. Ça peut être des viticulteurs, etc. Et après, on peut prendre un tiers de gens qui sont d'affinité vin, curieux de ce domaine-là. Donc effectivement, c'est difficile à réunir ces trois familles, si on peut dire. Mais ça, avec l'expérience, on y arrive. Ensuite, c'est tout un jeu de cache, d'enregistrement. Il faut absolument que tous les échantillons qui arrivent sur la table à la dégustation ne puissent pas du tout être repérés et surtout ne pas être reconnus par exemple, un viticulteur qui serait inscrit comme jury, dans le jury, pardon, et qui ne se présente pas sur son vin. C'est normal. Hein, voilà. Après, sur des concours comme Mende, c'est quand même un petit échantillonnage. Hein, on va dire, on plafonne à 45-50 échantillons. Nous, on avait trois familles. On avait les IGP-VDP pour les 2016-2017, une première famille, puis les AOP-AOC puisqu'il y a un cahier des charges qui est beaucoup plus strict. Et toujours pour les 2016-2017, c'était la deuxième famille. Et parce qu'en région Occitanie, on est riche de vins un petit peu particuliers. Donc, on a créé une famille qui s'appelle les vieux millésimes. Il a fallu que moi, je la fasse labelliser parce que ça n'existe pas au niveau national. Et cette vieille famille, ces vieux millésimes, donc, c'est la troisième famille. Ce sont des vins qui sont antérieurs à 2015, pour cette année, donc. Alors, des 2015, 2014, 2013, etc. Et là, on a eu des perles incroyables. Sur les vins 2016-2017, en IGP, VDP, on a eu des vins qui étaient quand même portés sur le fruit, un peu craquant, un peu gourmand. Les AOP, c'était des vins qui étaient beaucoup plus structurés, beaucoup plus dans l'idée du commerce, de la présentation, donc de la belle réalisation. Et je pense que l'année prochaine, ça sera très intéressant de participer sur des concours comme le nôtre, parce que 2017 promet une récolte de haute qualité. Certes, il y a eu les attaques de mildiou, mais à côté de ça, on a un vin qui a été récolté à bon niveau de maturité, donc on n'aura que de la qualité, ça c'est sûr.
Et dans les notes d'un concours, est-ce qu'on voit une vraie différence entre les professionnels et les amateurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus techniques et d'autres qui vont être plus sur vraiment le ressenti, le goût ? Ou est-ce que finalement, ça se rejoint quand même ?
Voilà. Alors, donc, c'est une très, très bonne question. Et effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce moment que vous l'avez présenté. Le fait de trouver des... J'ai expliqué, donc, il y a un ratio de compétents, de moins compétents et puis d'amateurs. Ça permet justement de réaliser des tables avec des personnes justement d'origine différente pour essayer d'harmoniser tous ces résultats-là. Alors, je n'ai pas le droit de dire comment ça se passe au niveau de la notation, puisqu'il y a des grilles qui sont bien particulières pour tout ceci, mais c'est l'appréciation de toutes ces personnes qui vont œuvrer sur une même table qui va créer une moyenne et qui va amener un vin à une reconnaissance ou pas. Et ça peut être aussi une élimination, hein, puisque dans les concours, c'est comme ça. Alors effectivement, parmi les professionnels, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus tolérants. Et après, il y a des gens qui sont particulièrement stricts, et je suis désolé de le dire, mais moi, je fais partie de ceux-là, parce qu'on a beau être dans la sympathie et tout, quand on est sur un produit comme ça, qui devient un produit de marketing, de vente, si la personne elle a passé des années en investissement et en temps, c'est normal qu'on lui rende la monnaie de son travail. Donc, il faut le reconnaître à sa juste valeur. S'il est excellent et qu'il a misé dessus, il faut le mettre en avant.
Oui, surtout si le concours commence à être reconnu. Maintenant, il y a la pastille concours demande.
Mais puis, on s'aperçoit aussi d'une sorte de diversité, parce que tout dépend des écoles qui nous ont formés. Moi, j'ai plutôt une sensibilité sur les écoles où je suis allé. Donc, moi, c'est plutôt les Bourgognes, etc. Mais il n'empêche que ça m'a permis de découvrir vraiment ces vins de la région de Languedoc-Roussillon et d'en tomber follement amoureux. Et pour certains... J'en suis tellement prêt que j'y vais encore régulièrement chez eux pour intervenir sur, par exemple, des assemblages ou des choses comme ça.
Et c'est indifféremment des blancs et des rouges qui sont...
Alors, nous, ici, à Mende, on n'a pas accumulé suffisamment de compétences pour développer un concours sur les trois couleurs. Donc, on a choisi de présenter uniquement de la bouteille en rouge. Mais effectivement, moi, je participe après sur des évaluations qui sont notamment en blanc. J'avoue ne pas participer sur du rosé. Mais les blancs, j'aime de plus en plus Miran. Voilà.
Oui, et donc on va bientôt recevoir des producteurs.
Alors, je vois derrière, ouais. On a quelques producteurs qui sont venus à notre rencontre, et notamment des producteurs qui ont été primés.
est-ce qu'on arrive encore à avoir des surprises, des choses qui, même pendant ces concours-là, est-ce qu'on arrive encore à avoir des surprises ?
Oui, des surprises, c'est un petit peu le but, à la fois des surprises sur la qualité des produits et puis aussi sur la manière de les associer avec différentes choses. Hier, Frédéric Ducrot, l'œnologue, se plaisait à nous rappeler qu'il fallait aussi tenter des choses. Hier, on a goûté des rouges plutôt puissants sur du chocolat. C'était vraiment une belle découverte, comme certains blancs sur les fromages de chèvre, le chardonnay sauvignon du domaine des Cabridelles, même si je suis un petit peu... un petit peu chauvine là-dessus, mais avec des fromages de chèvre du coin, c'est véritablement une merveille. Donc c'est ça aussi la beauté du vin, c'est les surprises que cela peut nous réserver.
Et puis aussi, parce que le vin devient quand même un élément de curiosité et d'échange. Mmh. Alors avant, on était bercé, d'habitude, on mettait toujours avec tel plat, tel vin, etc. etc. Et puis j'évite même de dire qu'il y a des familles qui achetaient que, par exemple, du Côte-du-Rhône, etc. Aujourd'hui, il y a justement un esprit découverte, aventure un petit peu dans les mets. Et On peut expliquer que la blanquette de veau, ça ne se boit pas avec un rouge ou un rosé. La blanquette de veau, c'est forcément avec un blanc, quoi. Il y a des choses comme ça qui sont incontournables. Moi, je bondis parce que les gens ici, on a un fromage excellent, le Roquefort. Et chaque fois, ils nous servent ça avec quelquefois même des Bordeaux. Mais c'est aberrant. Moi, un Roquefort, dégustez-le avec un bon Viognier, avec des choses comme ça. Mais même rien qu'une clairette d'Adissan, vous allez voir, c'est pas cher et c'est extraordinaire le mariage qu'on a là. Parce que là, on est sur des vins qui sont généreux, qui sont gras, qui vont dans l'accompagnement même de ce que vous dégustez. C'est ça qu'il faut découvrir. C'est la nouvelle dégustation.
On va justement déguster des vins, rencontrer les producteurs. Juste après la première pause musicale, c'est parti avec Ed Sheeran.
Merci Patricia. Merci. Alors.
She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good.
Donc là, on est de retour donc avec Stéphanie qui nous présente son vin. Donc c'est un vin blanc. Donc votre domaine.
Donc c'est le domaine du Mas Alexandre qui est situé sur la commune d'Agnan dans l'Hérault, dont on est environ à 30 km au nord-ouest de Montpellier.
Vous savez, c'est là aussi qu'il y a toujours la polémique avec les grandes vedettes qui vont acheter quelques terroirs.
C'est ça. Nous avons de gros domaines, de très gros domaines, et aussi quelques célébrités qui achètent et. Un certain Américain qui voulait investir, mais nos gros domaines n'étaient pas très, très d'accord.
Voilà. Alors, en fait, moi, je suis ravi qu'on ait récupéré Mas Alexandre. C'est ça, hein, c'est voilà. Ça. Parce que la cité d'Agnan, il y a des choses extraordinaires qui se font sur ces terroirs-là. Il y a des petits domaines, quand même. Hein. Il faut savoir qu'il y a aussi même la production d'olives là-bas, hein, parce qu'il y a les frères Salles. Voilà. Et effectivement, on est sur là une réalisation un peu différente. Alors, ce domaine-là a été primé hier en rouge, notamment, et elle nous expliquera pourquoi. Et on a fait de présenter un autre vin que celui qui est primé, parce que finalement, Bon, on l'a déjà découvert et tout. Et là, on est sur une réalisation un peu différente. Alors, je vous laisse en parler un petit peu.
Alors oui, sur le blanc, on est sur une optique complètement différente. Donc, on a des parcelles soit en coteaux, soit en bordéraux sur des graviers. Donc là, le chardonnay se situe plutôt sur les coteaux. Donc, on est sur quelque chose de très ensoleillé qui va donner des produits plutôt fumés, grillés, même sur le blanc. Par contre, le sauvignon, on a pris la décision de le mettre sur les galets roulés de l'Hérault. Déjà passé des terrains gélifs et que le sauvignon déborde un petit peu plus tard. Et puis ça permet aussi d'avoir une température quasiment constante sur la parcelle. Ça garde ou la fraîcheur de la nuit ou la chaleur de la journée. Ce qui fait qu'on n'est pas sur des sauvignons qu'on peut trouver à Sancerre. On est plutôt sur des sauvignons très très mûrs et on est surtout sur le côté fruit exotique. Donc après, comme on ramasse ces deux cépages en même temps, on se retrouve avec des sauvignons et des chardonnays en surmaturité qui peuvent se retrouver entre 15 et 16 degrés aussi en cuve et avec une acidité qui n'est plus du tout présente. D'où la décision de rajouter de l'uniblanc qui lui est un cépage très floral et qui a énormément d'acidité. Ce qui permet
de... On peut justement en parler tout petit peu hein, de l'uniblanc. Voilà, c'est effectivement... Et c'est un cépage qui revient en force maintenant dans les vins blancs. C'est un petit peu dans la mode maintenant. Hein. On a le Vermentino qui revient aussi, mais l'uniblanc, on en retrouve de plus en plus dans les assemblages.
Oui, ça permet de noter, de renforcer le peps. Nous, nos blancs manquent d'acidité quand même, quoi qu'il arrive, parce qu'on est grillé par le soleil. Et c'est un cépage quand même qui garde toujours une acidité très forte et ça a un petit degré aussi. Donc, ce qui permet d'avoir un vin qui se situe entre 13 et 14 parce qu'on ramène l'uniblanc qui est au maximum de sa maturité à 12 degrés.
Avec nous, on a également le domaine Sainte-Octine. Vous pouvez prendre la parole également hein, parce que là aussi, on a choisi un vin blanc du domaine Sainte-Octine. Alors, on peut échanger comme ça. Moi, ce que j'aurais aimé... Je connais le principe, mais est-ce qu'on peut résumer un petit peu la vinification d'un vin blanc ? Partir déjà en disant que le blanc, ça se fait à partir de telle couleur de raisin, etc. etc. Rapidement ?
Alors rapidement, un vin blanc, c'est pas très compliqué en soi en vinification. Le plus difficile, c'est d'avoir les arômes. Donc, il faut des fruits mûrs pour avoir ce côté fruité. Dans vendange, on arrive à la vendange, mise au pressoir direct. L'isopressoir direct et de suite au froid, du froid pour enlever ce qu'on appelle nous le débourbage, pour enlever tout ce qui est les parties qui pourraient amener un côté herbacé, donc débourbage direct pour nous du moins, et après on le laisse au froid à peu près pendant 48 heures pour essayer de déclencher un maximum d'arômes et après on levure pour déclencher la fermentation.
Voilà, et c'est pas compliqué de faire justement de la vendange avec un raisin pas trop chaud quand on est sur des terroirs comme vous.
Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on vendange à la même. Donc, ça veut dire que les vendangeurs, ils sont à 6h du matin.
Ben oui.
Et à 10h, on arrête.
Voilà.
Bon, et à 10h, on arrête.
Ça se passe comme ça, Sainte-Octine aussi, j'imagine.
Sainte-Octine, voilà, ça se passe à peu près pareil, sauf qu'on vendange tout mécaniquement parce que sur le domaine, on n'est que trois. Il y a ma compagne et Bastien qui est notre collaborateur et moi-même. Donc du coup, on n'a pas forcément la possibilité de faire manuellement, donc on vendange tout à la machine. Donc c'est vrai que la parcelle de blanc, la bouteille de blanc que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est une parcelle qui fait 80 arts, donc on commence à démarrer la machine à 6h du matin. Et à 7h30, les raisins sont dans le pressoir, et pareil, comme Mas Alexandre, c'est pressuragé. Exactement les mêmes méthodes, donc dès que le vin est dans le cuvon, enfin le moût est dans le cuvon, on le met en stabulation à froid pendant 24-48 heures. Ça dépend après du dépôt, s'il se fait plus vite ou moins vite en fonction des années, des millésimes. Il y a des années qui se déposent beaucoup plus vite que d'autres. Et après, pareil, on récupère la partie très limpide du jus, du mou que l'on remet en fermentation, pareil. Et après, ce sont des fermentations pour Mont Blanc qui se situent entre 16 et 18 degrés pour la fermentation.
D'accord. Alors, on a parlé donc du domaine donc de Mas Alexandre. C'est un domaine qui fait à peu près combien d'hectares, vous ?
On a 10 hectares.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même, on reste dans la moyenne. Sainte-Octime, par contre, on n'a pas dit. Vous êtes situé sur quel endroit ?
Voilà. Donc, domaine Sainte-Octime, il est à Sardan. C'est un tout petit village qui est au nord de Sommières, entre Sommières et Quissac. Donc, qui se situe au sud d'Anduze, entre Nîmes, Alès, Montpellier, on va dire, pour situer un peu plus. Et là, c'est un domaine de 25 hectares. Donc un domaine familial. Et voilà, quoi dire de plus. Après, je vais peut-être vous présenter un petit peu la cuvée.
Voilà,
à
alors,
ce moment-là.
On peut rajouter quelque chose, peut-être toujours sur le Mas Alexandre, parce que c'est vrai qu'on ne parlera pas la bouche pleine.
Voilà. Non, là, on est sur un vin fruité et très vif.
Alors vous, votre conseil, un vin blanc comme celui-ci, sa consommation,
c'est... Consommation, dont ça va très bien sur tout ce qui est un petit peu épicé, ouais. Tapas, un peu...
ouais. Ou alors un petit
ou
peu...
sinon, les fromages à pâte persil.
Parfait. Et par contre, on ne descend pas trop quand même en température, hein, parce que moi, les blancs à 6-7 degrés, j'ai horreur de ça.
Non, 8-9 degrés,
voilà.
C'est là où ils s'exprimeront le plus.
C'est pareil.
C'est
voilà.
Là où ils vont exprimer le plus les arômes.
On n'est pas là pour une dégustation de coquillages ou de fruits de mer. Alors,
non,
donc,
non.
Il faut aussi quand même qu'on soit dans la raison. Hein. Les vins d'intérieur, il faut quand même leur laisser quelques degrés pour qu'ils aient du parfum. Hein. Voilà.
Il ne faut même pas hésiter à les déboucher aussi un petit peu avant, parce que nous, on met très peu de SO2, mais ils sont... un peu gazé. Au premier abord, si on les débouche, ils pétillent.
Mais je vais vous dire que
pas hésiter à les ouvrir aussi un petit peu.
Moi, j'ai pris l'habitude pour certains chardonnays du Languedoc de même les faire ouvrir en carafe.
Oui.
Parce que je trouve qu'on reconnaît moins bien le vin, mais en tous les cas, on est plus sûr de ce qu'on met dans le verre.
C'est ça.
Donc ça, c'est aussi une petite astuce au dernier moment. C'est très, très bien. Quoi. C'est agréable. Voilà. Un vin blanc comme celui-ci, c'est à consommer dans les 2-3 ans.
2-3 ans.
Il ne faut pas rêver. Hein.
Non,
on
non,
2-3
ans, on n'est pas sur...
Non, non, blanc, hein.
Non, non.
On passe maintenant sur celui-ci, peut-être.
Oui. Donc, alors, le blanc que je vais vous faire déguster, donc, c'est un assemblage de 6 cépages. Donc, c'est un blanc assez atypique pour notre région, parce qu'en fait, sur la même parcelle de vigne, on avait planté en 1999 deux rangées de chaque cépage. Donc il y a deux rangées de chardonnay, deux rangées de sauvignon, deux rangées de muscat petit grain, deux grenache blanc, deux sauvignon et deux viognier. Et du coup, les 6 cépages sont vendangés le même jour. Donc c'est vraiment une vendange que je ramasse très tard. Là, cette année, je l'ai vendangée de tête, je crois que c'était le 14 ou 15 septembre. Donc c'est quand même une vendange très tardive, parce que quand on voit le chardonnay, le muscat petit grain, le sauvignon... ils sont en surmaturité presque extrême. Et après, vous avez la roussane qui arrive juste à maturité, qui vous apporte l'acidité et l'équilibre. Et du coup, c'est vraiment un assemblage qui se fait tout naturellement. J'interviens à aucun moment pour la vinification. Il n'y a pas d'ajout d'acidité. C'est vraiment un assemblage naturel et assez complexe.
Mais ceci dit, par contre, c'est le vin blanc qui vous fait mal à la tête avant de le déguster, ça. Parce qu'il est tellement compliqué avec l'association de tous les cépages que le simple fait que vous fassiez déjà les ratios en pourcentage, il faut quand même être... Bon, ça se gère quand même très bien. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir une licence en mathématiques. On y arrive avec des habitudes comme ça. C'est pas trop difficile en cave de faire après un élevage sur des assemblages longs comme ça.
Non, parce qu'après, comme je vous disais, c'est vendangé le même jour. Donc, ils sont pressés.
Tout évolue en même temps.
Tout évolue en même temps. Les 6 cépages, ils sont mariés dès le départ. Donc, du coup, ça donne... Il n'y a pas de complexité plus que d'autres assemblages, par exemple, de vin fini, par exemple. Donc, c'est vraiment dès le départ que l'assemblage se fait. Donc, il n'y a pas plus de travail qu'un vin classique.
C'est-à-dire que là, il faut que tous les raisins arrivent à maturité en même temps.
Mais comme je disais, il y en a qui sont en surmaturité. Ouais. Et d'autres, comme la roussane, qui est un cépage beaucoup plus tardif, qui arrive juste à peine à maturité. Et du coup, ça apporte la note d'acidité que les autres ont perdu, comme Mas Alexandre disait tout à l'heure, par le soleil. Donc c'est vrai que c'est un équilibre qui se fait naturellement.
Et l'un et l'autre, vous n'avez jamais été tenté sur du grenache gris, par exemple? Parce que je vois que sur Saint-Félix, etc., ils en produisent un petit peu. Ça permettrait de mettre 7 cépages au lieu de 6.
Après, j'ai pas de grenache gris. J'ai que du grenache blanc. Donc
Non, nous non plus, on n'a pas de grenache gris. Moi, le grenache, j'ai un peu de mal avec.
Oui, moi aussi.
C'est très difficile à le cultiver. Et on a un gros souci, nous, sur Agnan, de coulure sur ces cépages. Donc, je suis pas très copine avec le grenache. On a une parcelle, mais j'avoue que on ne l'utilise pas à sa pleine valeur. Quoi.
D'accord. Bon, après, quand même, on a des cépages qui sont tout à fait locaux. J'allais dire, bon, les cépages génériques, on a le chardonnay. Où qu'on aille, on connaît le chardonnay.
Oui.
Et, il se révèle différemment selon le sol, bien sûr. On s'aperçoit quand même que sur le Languedoc, de plus en plus, on revient sur du viognier. Et moi, le viognier, j'avoue qu'il n'est pas évident.
pas facile travailler, comme cépage non plus.
Mais il passe pas partout. Mais maintenant, quand même, il y a une belle palette de saveurs.
Nous, je pense qu'on va pas tarder à en planter. C'est un peu l'objectif de l'exploitation, vu que les Sauvignons sont très très vieillissants. Peut-être on fera plutôt Chardonnay-Viognier, parce que c'est quand même une palette aromatique qui peut être très sympathique, notamment en Bordeaux, lui aussi. Le mettre à la place des Sauvignons.
Mais Sauvignon, il est quand même bien hein, sur notre région. Bon, après, vous, c'est très très chaud ici. C'est très chaud,
puis mon père a été un peu précurseur. La vigne a plus de 30 ans, donc ça craint quand même la maladie du bois, là, maintenant, contre les souches. Donc,
il faut être prudent là-dessus.
Il faut quand même qu'on garde une pérennité sur notre production. Bon, on a un autre Sauvignon, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais que la vigne est encore jeune. Donc, c'est pour ça qu'on envisage ce remplacement.
Et à Saint-Octime, le Viognier, par exemple, c'est
après,
un beau
projet. Viognier, il fait partie de l'assemblage. J'en ai pas ailleurs. Donc, en fait, pour la petite histoire, parce qu'il y a quand même une histoire sur cette cuvée, quand mes parents l'ont planté en 99, la première récolte, il y avait eu un petit épisode Cévenol, comme souvent on a dans notre région, on ne peut pas passer à côté. Et en fait, l'intérêt de base, c'était vraiment de faire des micro-vinifications pour voir quel cépage était vraiment plus adapté à notre région. Donc on devait récolter chaque cépage bien distinct pour les vinifier vraiment chaque cuve, une cuve par cépage. Et la première année, on a été pris de court par l'épisode Cévenol. Donc du coup, mes parents ont décidé de vendanger la totalité de la vigne et de faire justement un assemblage de raisins. Et quand la fermentation a été finie, on a eu un résultat qui était tellement convaincant que on n'a jamais fait autre chose que cette cuvée. Et voilà, ça fait depuis 2001 qu'on continue cette cuvée et je la continue. Et là, d'ici 2 ans, on va justement replanter, on va tripler la surface parce que c'est une production qui plaît énormément par son côté atypique, par son côté fraîcheur. Et voilà, on commence à être en rupture de produits. Et comme Mass Alexandre disait, voilà, c'est une vigne qui commence à prendre de l'âge et il y a beaucoup de maladies du bois qui arrivent. Donc il faut penser à replanter avant que le vignoble dépérisse trop et qu'on perde en volume.
Donc voilà, pour tous les deux, ce sont des histoires de famille, pardon.
Non, vas-y.
Tous les deux, vous êtes sur des histoires de famille, c'est...
C'est ça.
Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je suis la 6e génération, donc ça fait un moment que l'exploitation est implantée sur Agnan.
Donc c'était obligé de continuer?
Obligé, non, c'est un choix. C'est un choix. Et ils m'ont forcé jamais à rien. D'ailleurs, à 15 ans, je leur disais, vos vignes, c'est hors de question, je ne reprendrai jamais. C'était plus ma sœur qui était orientée vers ça. Sauf qu'après, j'ai fait des études de chimie. Un mois en labo, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je reprends le plein air. Et là, j'ai fait mon BTS Vitiono pour reprendre. Donc finalement, on revient aux sources.
Puis il faut aller là ce qu'on a vraiment envie, quoi, parce que c'est court, hein, le temps passe très vite. Ce qui est bien, c'est, vous revenez un petit peu sur ce que je disais à l'introduction, les viticulteurs du Languedoc, quand on est sur des petits domaines, parce que je ne parle pas après des domaines à 40, 50 hectares, 60 hectares, mais les autres, l'avantage, c'est que ce sont souvent des gens qui sont nés dans la vigne, qui connaissent tout ça, et c'est une expérience. Et cet héritage, ce patrimoine qu'ils ont récupéré, ce n'est pas qu'un patrimoine physique, c'est également un patrimoine de connaissances, de réflexion et toute une série d'essais qui ont amené à choisir tel cépage plutôt que tel autre, etc., etc. C'est compliqué parce qu'en plus, vous travaillez sur une trésorerie qui est quand même, somme toute, modeste. Et dès qu'il y a un accident, ça impacte gravement la propriété. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne travaille pour la gloire. Hein, on a des obligations. Et vous le disiez, il faut qu'on anticipe. Aujourd'hui, la maladie du bois arrive pour quelques-uns. Il faut penser à renouveler les vignes et tout ça. Ça aussi, c'est une politique qui est à mettre en place. Il faut être conscient de tout ce travail-là. Ce n'est pas parce qu'on longe une route qu'on voit des vignes que le vin va se produire comme ça. Là. Il y a tout un travail derrière. Hein. Et oui, et en plus, on ne parle même pas des inondations, parce qu'on l'a vu sur l'Aude cette année, et je les plains vraiment. Mais nous, on a eu aussi des épisodes de grêle à proximité. Je ne sais pas, vous avez été touché, vous?
Non, nous, cette année, on touche du bois et on...
Tant mieux. Voilà. Donc, en fait, tant que le vin n'est pas dans la cuve, il n'y a rien de gagné. Et quand il est dans la cuve encore, après, le viticulteur, il ne dort plus.
Il ne dort plus,
parce que là, il faut absolument surveiller les températures et tout. Et c'est compliqué, finalement. Et on comprend, un peu comme on est infirmier par conviction, on est viticulteur aussi par conviction. C'est qu'on aime vraiment ça.
Oui, là, on a quand même des années difficiles. Hein. On a eu la sécheresse l'année dernière. Nous, on a été fortement touchés par le gel. Cette année, c'est un peu la maladie, mais on s'en sort quand même mieux. C'est vrai que les trésoreries sont fragiles et le moindre incident climatique peut dégénérer. Mais comme on est passionné, on s'en sort toujours.
Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que le marché il évolue. Parce qu'avant, les gens, ils achetaient un vin pour le garder un petit peu, etc. etc. Aujourd'hui, en 2 ans, on l'a vu, la mode rosée est arrivée de plein fouet sur les plages. Il a fallu de la bouteille givrée, de la glace tout autour. Et on buvait ça comme du petit lait, si on peut dire. Hein, je prends l'expression, pardon. Hein. Et en fait, on a bu n'importe quoi. Ça a été même toxique pour les gens qui faisaient du vrai rosé. Ça a été même agaçant.
Ça a un peu abîmé l'image de rosé.
Voilà,
vous en faites du rosé ?
Oui, oui, on en fait du rosé et on a 2 sortes de variétés de rosé. Il y a une paire d'années, j'ai fait une semaine de vacances en Corse. Un vigneron prend peu de vacances, mais on a réussi à partir en Corse. Et du coup, j'ai découvert un rosé dans le Patrimonio qui est du Nieluccio, du coup. Et c'est le cépage principal de la rosé Patrimonio. Et je suis tombé amoureux de ce rosé. C'est vraiment un rosé qui sort de l'ordinaire, qui est complètement différent de chez nous. Et du coup, j'en ai planté 3 hectares en 2012, donc après mes vacances. Donc du coup, c'est vraiment un rosé atypique. C'est vraiment sur le côté épicé, avec du gras que des rosés de chez nous n'ont pas. Donc c'est vraiment un rosé qui peut s'accompagner autant avec des fruits de mer qu'avec une petite viande en sauce blanche légère. Et après, on a un assemblage de Cinsault-Grenache, donc assez atypique. Mais c'est vrai que cette image-là nous a un peu perturbés au niveau des rosés. Parce que voilà, c'est des rosés qui sont, c'est comme on disait tout à l'heure, ça reste assez compliqué à faire. Parce qu'il y a l'extraction qui est pas facile pour avoir la couleur, pour avoir les arômes, pour avoir juste un peu de gras ce qu'il faut. C'est pas des choses très faciles à faire. Et après, il y a eu des grandes cavaleries qui ont fait des rosés, très
rosés
pâles.
Aux saveurs bonbon anglais, hein, on peut le dire.
C'est ça, très amylique.
Des rosés technologiques. Là.
Bah oui, mais très bon, amylique. Après, là, je veux dire, on n'a plus besoin d'être viticulteur pour faire ça. Je suis désolé, mais je préfère en parler directement. Moi, je suis tout à fait contre. Si on fait du générique, on n'a pas besoin d'être viticulteur pour ça. Le viticulteur, lui, c'est celui qui va être à côté de sa cuve et qui va à chaque fois regarder la couleur, etc. Mmh. Et il va faire... Voilà, c'est ça aussi. C'est ça. Bon, eh bien, je crois que là, on va changer. Oui. On tourne la page.
Qu'est-ce Par contre, on n'a pas dit juste avec quoi on le
on pour le blanc, les 6 cépages, moi, je le conseille de l'apéritif jusqu'au dessert. Parce que vous avez quand même une complexité qui est assez impressionnante. Il y a une petite douceur qui est apportée par le muscat petit grain. Du coup, vous pouvez le prendre en apéritif. Il y a de la vivacité pour prendre des fruits de mer, des huîtres. Et après, sur le pélardon, c'est quelque chose qui passe super bien. Un petit pélardon avec du pain d'épices, hein, c'est goûter, c'est fabuleux.
Bon, ben, qu'avait des produits de Lozère après.
C'est ça,
finalement.
C'est bon, quoi. Bah, les huîtres, il faut descendre un peu
non,
plus.
Non, les huîtres, oui.
Mais les huîtres d'eau douce, ça n'existe pas encore.
Bon, on a des poissonneries, ici. Voilà. Alors, les deux domaines, donc, on avait Domaine Saint-Octime, c'est sur Sardan.
Sur Sardan, hein,
c'est
à Lugard.
C'est à proximité de Sommières, etc.
C'est ça, tout à fait.
Et il flirte également avec plein d'autres appellations, les Gossières de Nîmes, etc. Oui, hein, oui. On a Uzès qui est pas loin.
Côte du Languedoc, les terres de Sommières.
Et puis alors, les fameuses terres d'Agnan, on sait que la viticulture s'est développée à l'origine, puisque vous viendrez à ma conférence le 21 novembre et vous verrez, je vous expliquerai l'origine de la vigne jusqu'à son implantation dans le Languedoc maintenant. Et je vous parlerai bien sûr de Agnan dans les années 700. Et je vous parlerai aussi de Charlemagne. Voilà. Alors là, c'est le domaine Masse-Alexandre, et un petit domaine, mais avec les 3 couleurs pour l'un comme pour l'autre.
Hein.
Voilà.
Couleurs,
oui. Quand on dit 3 couleurs, c'est rouge, rosé et blanc. Vous l'aviez compris.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
48 FM.
48 FM.
Donc voilà, on est de retour. Donc là, on change de couleur pour la dernière partie. Donc là, on était jusqu'à là, on a fait du blanc. Là, on va repasser sur du rouge.
Alors pour la présentation des rouges, donc on a choisi deux domaines qui ont été primés, mais également on a fait appel à un connaisseur local. On a invité Bertrand. Bertrand, donc c'est le domaine des Cabridel. C'est à Hispaniac, chez nous. Hispaniac, c'est un terroir qui est difficile à travailler. Hein. Parce qu'ils sont sur des vignes un peu à mosaïque, c'est des petites parcelles, c'est tout très très accidenté, c'est le cagnard l'été, si on peut dire, et c'est des vendanges uniquement à la main parce qu'il n'y a pas d'autre solution, voilà. Mais des perles, et alors je dois le dire parce que, après tout, c'est le vrai, moi je suis absolument amoureux de leur Sauvignon. Quand on a goûté ce Sauvignon, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. C'est le meilleur que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Et en plus, c'est un vin qui se cuisine parfaitement bien. Voilà. On va parler notamment d'un petit jeune, là. Alors, chaque fois que j'écris le nom de son domaine, je me plante. J'écris le domaine des Romains, alors que c'est des Romarins. Alors, pardon, ne m'en veuillez pas. Et alors, eux, ils ont été primés hier sur un IGP, VDP, 2016 ou 2017, je me souviens
2017,
plus.
Je ne sais pas celui que j'ai apporté.
Voilà. Et c'est quelque chose de porter énormément sur le fruit et tout. Mais on va peut-être découvrir alors. Hein.
Oui.
Alors, domaine des Romarins, c'est l'adresse à peu près.
Voilà, donc on est un domaine familial à Domazan, dans le Gard. Donc, pour situer entre Nîmes et Avignon, puis, pas très loin du pont du Gard.
Voilà, juste sur les rives du Rhône.
C'est ça, on a une petite dizaine de kilomètres du Rhône, à l'extrême sud-ouest de l'appellation. Donc l'appellation principale, c'est le Côte-du-Rhône village Signargue, et on produit du Côte-du-Rhône et du vin de Pays du Gard parce qu'on a des parcelles qui sont en bordure.
Voilà. Donc, ce sont quels cépages que,
principalement que Grenache, Syrah. Là, j'ai apporté un Carignan pur, et on a aussi quelques parcelles en Viognier, en Cinsault et en Counoise.
Donc on va dire qu'on travaille là aussi sur les trois couleurs. Hein. Le domaine des Romarins, c'est à peu près quelle surface ?
On a une petite trentaine d'hectares.
C'est quand même déjà un beau domaine, hein, tout de même.
Oui, c'est dans les normes de la région.
Voilà. Avec le domaine des Romarins, un habitué, le cow-boy de service, vous le reconnaîtrez à son chapeau. Alors lui, c'est du Saint-Chinian. Alors le Saint-Chinian, vous voyez qu'est-ce que c'est comme vin ? C'est quelque chose qui a beaucoup de personnalité, si on peut dire. Et lui, il a décidé de se démarquer, on en parlera tout à l'heure. C'est un petit domaine, il a relancé ça avec un travail un peu particulier. C'est magnifique parce que l'année dernière, il avait été primé, cette année reprimé, avec toujours un même nom, sauf que le millésime a changé, voilà.
C'était l'infini Carignan.
Ah, alors non, mais il avait présenté aussi, mais il n'avait pas été retenu, voilà. Et l'Arabidote, c'est le nom d'une parcelle, hein, c'est ça, voilà. On va peut-être commencer avec un vin un petit peu plus jeune, un peu plus... voilà. On l'ouvre ? Allez, ça c'était le bruit du vin.
Donc là on est sur un Carignan 2017 en Côte-du-Rhône. C'est une cuvée qu'on... qu'on fait depuis... La première cuvée est sortie en 2010. Et c'est des vieilles vignes qu'on vinifie en macération carbonique. Donc, vendange en caisse à la main, grappe entière dans la cuve, saturation gaz carbonique, et macération dans le grain pour essayer de fixer au maximum les arômes et les tanins.
On peut dire vieille vigne à peu près à quel âge ?
Entre 40 et 50 ans.
Voilà, les classiques. Bon, on essaie de faire un premier-né déjà. Hein, alors, le domaine Lenny Barak, qu'est-ce qu'on en pense de son collègue là ?
Le nez est très ouvert, très expressif. Carignan, un magnifique cépage. Un de mes préférés aussi. Et donc là, on a un nez vraiment sur la jeunesse, puisqu'on est sur 2017. Et on bouche une belle ampleur, longueur, et c'est très caractéristique du Carignan. Beau travail.
Voilà. Merci. Pourquoi je voulais lui poser la question, parce que lui aussi travaille le Carignan d'une façon extraordinaire, donc c'était normal qu'il porte un commentaire là-dessus. Mais notre viticulteur lozérien, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça alors ? Ça y est, la dégustation, ça a démarré ?
Oui.
Bon, Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci de venir avec nous un moment.
C'est un grand plaisir.
Ah, merci. Alors, en fait, ce petit
vin. Ce Carignan, je l'avais goûté, enfin, je n'avais pas goûté ce millésime, mais j'avais goûté le millésime précédent l'an dernier au Forum des vins. J'avais beaucoup apprécié, je lui avais dit. Et en fait, voilà, on retrouve un Carignan, on ressent bien la macération carbonique. C'est plein de fruits, c'est très très agréable, avec des tanins très doux finalement pour du Carignan. Et franchement, c'est des vins qui doivent beaucoup plaire.
La macération carbonique, c'est quoi exactement ?
Donc c'est la macération carbonique, c'est le principe de faire la macération dans le grain au maximum. C'est-à-dire qu'on essaye, c'est pas une vendange qui est éraflée, c'est-à-dire où on a séparé le grain de la rafle. On envoie les grappes entières dans les cuves et on sature en gaz carbonique, la plupart du temps avec des températures qui sont nettement plus hautes que pour les vinifications traditionnelles, afin de, voilà, d'avoir cette macération dans le grain pour que les arômes et les tanins se fixent. Ce qui, avec le Carignan, est beaucoup plus compliqué à faire en vinification traditionnelle, puisque sinon ça fait des vins qui sont plus légers.
On essaye de mettre de la baie en fait entière, pas du tout abîmée, pour que justement cette fermentation elle passe à l'intérieur de la baie même. Ça veut dire que donc il faut être prudent, on ne fait pas de surcharge dans les caisses de portage, etc. C'est très important d'avoir le raisin le plus possible entier.
Voilà. Et on a des cuves qui n'ont quasiment pas de jus.
Tout à fait, c'est le principe même, voilà. C'est vrai que le Carignan, c'est aussi un cépage qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans les assemblages. On y revient parce qu'on redécouvre un Carignan un peu plus travaillé aussi. Hein. Je pense que c'était de mon avis là-dessus.
Ah oui, ouais. Ça revient au goût du jour, le Carignan, ouais. Tout à fait. Oui. On le voit dans la plupart des cuvées haut de gamme des domaines de la région. Vous verrez, il y a toujours une petite partie de Carignan dans l'assemblage.
Et puis dans l'assemblage, en plus, c'est assez facile à amener dans un assemblage.
Ça apporte une belle complexité.
Voilà. On dit que le Merlot, c'est le cépage médecin. Hein, parce que quand on fait un petit loupé ou autre, on se rattrape bien avec ça. Mais le Carignan, ça aide aussi à donner un peu de caractère hein, à un vin. Et je pense que nos vins, déjà, ils en ont. Mais il faut justement leur conserver cette puissance, cette volonté de marquer le palais directement. Mais le Carignan, par contre, on a tendance à le rapprocher quand même d'une viande un petit peu saignante.
Voilà, nous on le conseille sur ce qu'on appelle les notes poivrées. Donc notamment, notre favori, c'est la bouteille de Carignan avec une bonne côte de bœuf et des frites maison.
Pour les végétariens, quoi.
Pour les végétariens, je ne suis pas très, très au fait de ce qui peut se faire avec...
Maintenant pour les végans, alors.
Voilà. Mais sinon, oui, c'est toujours pas pour les végétariens. On conseille les assiettes de charcuterie ou les fromages, les plateaux de fromage. Vous allez avoir, pour des fromages qui en vaut un peu, justement, le vin va pouvoir lui donner un peu de répondant.
Qu'est-ce qu'il nous a dit, là, Bertrand, alors ?
Mais moi, je trouve,
avec des bons produits de Lozère.
Bien sûr, je trouve que c'est bien l'assemblage.
On ne peut pas mettre ça avec de la truite de Florac, quand même. Ben, c'est
tu
pas
vois,
possible.
Il faut goûter parce qu'on est des fois surpris. Donc on est surpris avec les poissons de certains vins rouges. Et moi je pense que ce Carignan peut très bien aller avec certains poissons aussi.
Voilà. Poissons de rivière. Hein.
Poissons de rivière, voilà, mais on est très surpris des mariages des fois.
Et on exclut également de ces accords-là les poissons de rivière qui sont avec une sauce à base de lait.
Bien sûr.
Parce que là, on va bien sûr utiliser plutôt un blanc ou alors un rosé, mais très 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 léger là. Hein. Mais voilà.
Après, les poissons de rivière, ça se marie bien. C'est aussi un vin qu'on peut déguster comme ça.
Très
bien.
Parce
que franchement, ce type d'arôme, ces tanins qui sont très doux en bouche, moi je pense qu'on peut le déguster comme ça. Pas très chaud, hein, légèrement refroidi, pas trop refroidi, mais un petit peu. Je pense que c'est superbe à déguster aussi comme ça.
Pour le vin qui a été primé hier, c'était le Petit Rouge. Hein. C'est celui-là. Le Petit Rouge, c'est un vin d'ami. On va le servir un petit peu frais, mais on peut le boire aussi comme ça, à 18h, 19h, là, se faire l'apéro avec ça.
Exactement. Le Petit Rouge, la recherche qu'on a fait, c'était que c'est que sa deuxième année, hein, au Petit Rouge, son deuxième millésime en bouteille. Et le but, c'était de faire un vin beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à boire, donc des vinifications beaucoup plus courtes pour préserver au maximum le fruit, sans chercher de la complexité, de la structure.
Voilà. Voilà, vous êtes, par contre, sur un domaine familial, vous y êtes depuis longtemps ?
Alors, moi, personnellement, enfin, j'y suis depuis tout petit, mais je me suis installé sur le domaine qu'à la retraite de ma mère il y a 5 ans. Et je travaille avec mon frère qui, lui, est installé depuis une quinzaine d'années et qui a repris à la suite de mon grand-père. Voilà. On est la quatrième génération.
Superbe. Peut-être qu'on pourrait maintenant s'intéresser un petit peu alors au Saint-Chinian.
Avec plaisir.
Hein ? Voilà. Alors... Lui,
je vais servir
la bouteille,
le vin.
Elle est maculée de macarons, tout simplement. C'est pour vous dire à quel point ces vins sont primés. Merci. Et il sait ce qu'il fait. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. C'est toujours de la dentelle. Et ce gars-là, en plus, il est assez particulier. Je le disais hier à la remise à la publication des résultats. Il revient à une méthode qu'ils ont connue, puisque moi j'étais pas là, heureusement, le temps des Romains.
Moi non plus.
Il a réintroduit des animaux dans les vignes, et ça c'est pas anodin. Peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu ce principe-là.
Oui, mais c'est exactement, comme vous disiez, c'est ce qui se faisait à l'époque, hein, avant cette fameuse période où tous les produits chimiques sont revenus, le travail en agriculture en général. Et dans la viticulture, la méthode ancestrale de travailler avec les animaux dans la vigne, pour moi, c'est une logique. Je travaille avec les animaux, donc on parle de vaches, de cochons, d'ânes, chevaux, moutons. Tous ces animaux, ce sont mes propres animaux que j'élève à la ferme et que j'utilise uniquement pour le travail à la vigne. Sur les coteaux qui sont pentus où le travail mécanique est difficile. Et les ânesses qui vont prétailler la vigne, les vaches et les chevaux et les ânesses qui vont aussi entretenir l'enherbement et les cochons qui labourent. Et tout ce beau monde m'apporte des engrais naturels au sol. Et ça fait partie aussi, puisque je suis en agriculture biologique et biodynamique, ça apporte une vie supplémentaire sur la propriété. Ça fait de la polyculture, de la biodiversité. J'améliore la qualité de mes sols grâce aux animaux également. Et c'est logique, c'est biologique.
C'est la ferme du bonheur, voilà. On pourrait dire que lorsque vous êtes installé là, sur ce domaine-là, c'est un petit domaine quand même, hein.
Alors, la propriété fait 27 hectares
oui, mais,
et 18 hectares de vignes.
Voilà, donc voilà. Bon, c'est quand même bien, mais voilà, c'est raisonnable.
C'est raisonnable,
ouais. Le choix a été fait dès le début de partir sur du bio.
Ah oui, ça c'est depuis le début. J'ai grandi comme ça avec mon père qui est formateur en biodynamie. Donc, ça a toujours été produit bio à la maison. Donc, ça, c'était... Le critère, quand j'ai choisi l'exploitation, déjà le critère, c'est d'avoir un domaine d'un seul tenant pour ne pas être pollué, entre guillemets, par les voisins qui travaillent en chimique. Et c'est un gros avantage.
Bertrand, oui. Là aussi dans les gorges du Tarn, on est sur du bio hein, ici. C'est pas trop compliqué de mettre un vin comme ça sur le marché ?
Non, parce que tu vois, on est passé en conversion bio, nous, ça fait la deuxième année. On est parti sur une année, cette année, vraiment très difficile, avec un printemps au niveau du Languedoc, un printemps très 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 compliqué, et finalement on s'en sort très bien. Et franchement, c'est un réel plaisir d'être dans un vignoble conduit en bio, moi je trouve. Bio, biodynamie, hein, enfin, tout ça. C'est enfin, une fierté, je ne sais pas si on doit dire une fierté, mais je me souviens l'an dernier, quand on a eu fini de tondre, on a fait toute la tonte manuellement, hein, à des broussailleuses, passer tous les pieds un par un, donc c'est beaucoup de travail. Mais franchement, quel bonheur derrière de se dire il y a zéro désherbant, il n'y a rien de chimique. En plus, nous, en Lozère, on est vraiment très protégés. Et on n'a bon, pas un gros vignoble, hein, on n'a pas de pression autour de nous chimique, on va dire. Donc, c'est que du bonheur.
Et sur Saint-Chinian, alors, partir sur une vision un petit peu, justement, bio, très respectueuse et tout, avec tous les autres viticulteurs autour, parce que quand même, on est dans une façon de travailler assez
une appellation avec beaucoup
vive.
Oui, avec une appellation avec des coopératives. Oui, à Saint-Chinian, je crois qu'on n'est que deux ou trois en biodynamie. En bio, ça commence à augmenter, mais il y a du travail qui reste à faire. Oui.
Je rappelle que la région Occitanie, c'est la première région au niveau des viticulteurs installés en bio, biodynamique. Hein. Donc, c'est remarquable parce que c'est un label également de respect de l'environnement. Et je l'ai mis d'ailleurs dans mon mot pour la plaquette. Je vois que Madame la Présidente, Carole Degas, l'avait signalé également. Il faut absolument le dire parce que c'est en montrant des produits de qualité et en montrant le résultat qu'on apporte avec ces produits qui sont quand même pas faciles à mener qu'on peut faire découvrir des choses nouvelles et amener du monde sur la Lozère. C'est important tout ça, voilà.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors maintenant de ce vin?
Alors que je vous la présente un petit peu,
oui,
donc
il
s'agit de ma cuvée La Rabidote, le nom d'une parcelle et du lieu-dit où j'ai la vitiferme. Là, on est sur un assemblage de Syrah et de Mourvèdre, principalement. Il y a un tout petit peu de Carignan et de Grenache. Là, on est sur un élevage de 12 mois en barrique de deux, mais de barrique, c'est pas du bois neuf, on est sur des barriques de deux vins. Puisque ce que je recherche dans cette cuvée, c'est l'équilibre entre le bois, le terroir et le cépage. Et donc ce vin exprime une grande complexité. On est sur des arômes de fruits noirs un peu cuits, on est sur des épices, on est sur de la réglisse. On est sur des tanins très très fins, on a aussi une petite minéralité puisqu'on est sur des terroirs de schiste. Et donc une belle longueur et ampleur en bouche. Les tanins apportent déjà, les schistes apportent déjà des tanins fins, plus la barrique qui arrondit encore plus les tanins. On est vraiment sur un vin en bouche qui est vraiment doux et soyeux, qui va très bien s'accompagner sur, pareil, côte de bœuf, viande rouge, fromage, même peut-être un dessert au chocolat.
Oui, je pensais justement à ceci, parce qu'on se rend compte que tous les vins qui sont produits sur du schiste ont quand même cette douceur, cette espèce de petit velouté que l'on a sur le voile qui se pose sur la langue. C'est agréable, ça aussi. Mais on ne peut pas mettre tous les cépages sur des sols comme ça, parce que ce serait un peu dommage de mettre un cépage puissant et à côté avoir un sol agréable comme ça. Ce n'est pas votre avis, non? Il faut aussi tenir compte un petit peu de ce que l'on veut mettre sur le marché et ne pas être en paradoxe. Si on veut quelque chose de doux et savoureux, on va prendre un assemblage de cépages assez doux aussi et qui vont bien se marier au schiste.
Oui, c'est là où je me démarque un petit peu par rapport à mes confrères à Saint-Chinian. C'est que, comme vous disiez au départ, Saint-Chinian a peut-être une réputation où les vins sont quand même un peu puissants. Et justement, les schistes apportent cette fraîcheur et cette minéralité au vin qui permet de les boire sur la jeunesse, mais qui ont un très grand potentiel de garde en même temps. Et c'est ça qui me plaît sur les schistes à Saint-Chinian.
Et c'est exactement le même cas, notamment pour les Fitou, puisque Fitou, il y a deux grosses lentilles de production. Et sur la lentille la plus en intérieur, on a des Fitou que tout le monde connaît, qui sont assez percutants. Ils marquent énormément hein, par leur saveur. Mais après, Fitou a également une petite production sur des schistes. Et là, je vous invite vivement à les découvrir. D'ailleurs, l'année dernière, on avait un représentant là-bas, il avait été primé. Ce sont des vins qui se démarquent complètement. Et en dégustation à l'aveugle, quelquefois, c'est un peu déroutant même. Parce qu'on peut se croire sur un autre terroir. C'est pas, tu crois pas?
Si, tout à fait, oui, tout à fait. On peut retrouver des vins très différents, malgré qu'ils soient sur schiste. Nous, on en a un petit peu sur Hispaniac, voilà. Des schistes, ça fait un peu beaucoup.
Oui, un peu vers Faux, notamment.
À partir de Faux. Et ça donne des choses super intéressantes, dans mon trou, et très différentes.
Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus, alors, sur ces vins rouges?
Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus?
On a parlé des rouges, on peut parler des rosés. Hein. Alors, il y a des rosés qui sont faits sur le domaine en bio?
Je fais un rosé, tout à fait, l'Orgadélix rosé. On est sur un assemblage de grenache et de syrah. Le rosé, on est sur un rosé où j'assemble mes presses et les saignées pour faire un rosé qui est... avec un peu plus de couleur, certes, mais polyvalent, puisque grâce au schiste, on arrive à faire une belle fraîcheur et minéralité. Il y a du fruit, et c'est un rosé qu'on peut boire sur l'apéritif, et qu'on peut boire tout le long d'un repas, puisqu'on a assez d'ampleur et de caractère pour accompagner des salades, des grillades, des charcuteries. Voilà, c'est un type de rosé un peu plus costaud qu'on va dire que les Provences. Voilà, c'est des terroirs, c'est des rosés de terroirs gastronomiques.
Et alors là, domaine des Romarins, les blancs, moi j'aime beaucoup les blancs là-bas. Vous êtes dans une zone de production extraordinaire.
Voilà, les Côtes du Rhône blanc, effectivement, ont une réputation à se développer. Nous, personnellement, nous ne produisons pas de Côtes du Rhône blanc. Notre blanc est un 100% Viognier, mais qui est en vin Pays du Gard. Voilà, mais qui a son petit succès parce que le Viognier est un cépage très flatteur et qui dans nos latitudes un peu plus au sud de leur territoire de prédilection dans le nord de la vallée du Rhône donne des vins qui n'ont certes pas la complexité mais qui ont une fraîcheur qui ont une légèreté qui est très appréciée en tout cas de notre clientèle.
Et du Viognier dans les gorges du Tarn?
Ça pourrait le faire très bien, il y en a une petite parcelle.
C'est difficile hein, quand même à mener. Hein. Est-ce que le climat, là, il va...
Oui, franchement, le climat n'est pas si mauvais que ça.
Non, ici. Mais je parle pour la maturité.
Vous savez, ouais. La maturité en Lozère...
Le Viognier, donc, ce serait bien.
On le voit cette année encore.
Donc, on va faire un essai.
On vendange des raisins que l'on pourrait vendanger sur Faugère. Le Marcelin, on les rentre à plus de 15 degrés. Ça, c'est bien. Donc, on a des maturités complètes maintenant.
Oui, donc là, ça y est, on a fait un peu le tour de nos deux, trois invités. Donc là, on va terminer.
Voilà, ben, le Salon du Vin, donc c'est à l'espace Georges Fraîche. Ça se déroule encore toute la journée. C'est en rez-de-chaussée. La clôture, c'est prévu 17h30, 18h. Il fait beau, mais ici, justement, vous allez avoir plein de soleil, même dans le bâtiment, parce que les gens, ils sont toujours agréables. Et puis moi, ce que je veux dire aux personnes, ne vivez pas d'habitude et de réflexe. Allez à la rencontre des gens, parce que le vin, c'est un produit qu'on consomme entre amis. Et allez voir un viticulteur. Il n'est jamais dérangé quand vous allez le rencontrer pour parler de son vin. Si par contre, c'est pour lui dire, ben, pourquoi tu n'as pas fait ceci, cela, lui, c'est un pro, il n'a pas besoin de conseils. Donc voilà, allez échanger avec lui, allez voir un petit peu son travail. C'est dur, mais c'est agréable.
Oui, là, ce sont des vins des petits producteurs. Il y a souvent des histoires derrière l'étiquette, entre guillemets. Et c'est toujours intéressant.
Histoire de gros sous, on ne peut pas les cacher, il y en aura toujours. Mais notre rôle à nous, petite association et passionnés de vin, c'est justement d'aller rencontrer ces petits domaines-là pour essayer de les mettre en avant. Et en fait, on se rend compte que, aussi modeste soit l'association Les Sarmentelles, on a fait référencer quelques-uns de ces producteurs-là sur des restaurants lozériens. Et je trouve que c'est formidable quand j'arrive et que je vois, mettons, le trépalou qui est à la carte sur un resto, ça me fait plaisir.
Profitez-en, on est là, on vous attend.
Merci.
Merci.
Merci à 48FM, bien sûr, pour cette prestation.
Merci beaucoup.